tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, c'est de la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Damien, vous écoutez la 86e émission de L'œil carnivore, 86 déjà, oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Nous sommes le 15 mai 2021 et pour cette émission, je reçois une partie de l'équipe du site Bicult, le webzine belge. Alors j'ai pris la description sur le site, hein. Le webzine belge qui vous emmène à la découverte de la culture musicale et cinématographique underground. J'ai donc autour de la table Hélène, rédactrice en chef du site. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ah, c'est dommage, ça a tout marché bien jusqu'ici et au moment où tu dois parler, on lance.
Ah, si ça remarche.
Ça remarche, je pense.
Ah. Bonjour alors.
Voilà, bonjour. Bonjour, il faut un peu réactiver la voix, c'est pour ça, c'est tout. Et il y a aussi Stéphane autour de la table qu'on vient d'entendre, qui est un des rédacteurs du chef, du site. Bonjour Stéphane.
Salut.
Salut. Alors évidemment, tout d'un coup, on vous entend plus au moment, c'est pas grave. Ça va revenir au moment où... où on va commencer à parler, puisqu'on est encore en mode chacun chez nous. On a failli faire cette émission en live, tous ensemble autour d'une table. C'est de ma faute, on n'a pas pu le faire, mais la prochaine, promis, on le fait comme ça. C'est chouette de vous avoir là, franchement, en tout cas. En fait, l'idée de l'émission est arrivée lorsque j'ai vu Stéphane poster sur Facebook le fait qu'il couvrait pour le site Bicult le festival, le Millennium Festival, je ne sais pas comment on le dit exactement, qui est un festival de documentaires à Bruxelles. Et je me suis dit, tiens, mais c'est quoi Bicult? Parce que je ne connaissais pas. Donc je suis allé voir, j'ai découvert ce site, très chouette site. Et à partir de là, je l'ai proposé à Stéphane, tiens, ça ne te dirait pas de venir parler du festival dans l'œil carnivore? Et puis il m'a dit, ouais, je vais en parler à ma rédacteur en chef. Et puis bah voilà, résultat des courses, on va parler de Bicult, on va parler du festival et on va passer un bon moment pendant à peu près une heure, quelque chose comme ça, autour de la table, autour du micro et avec vous. On est en live aussi sur Twitch, pour ceux qui nous écoutent en direct. Alors on est en début d'après-midi. Évidemment, là, peut-être que vous écouterez la rediffusion qui se passe sur Radio Panique entre 19h et 20h. Mais donc voilà, si vous êtes en live, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Normalement, je les vois. Et comme ça, vous pourrez interagir avec nous. Ça, c'est chouette. Donc, Hélène, je vais commencer par toi. Hélène, c'est quoi Bicult, en fait? Ou Bicult, plutôt, puisque c'est la version anglaise.
C'est un site sur lequel on retrouve... y a deux rubriques à Bicult. Il y a la musique et le cinéma. Donc, dans la partie musicale, on retrouve tout ce qui est review de concerts, review d'albums, interviews. Et on retrouve exactement la même chose, mais pour la version cinéma. On retrouve aussi des critiques de séries. Donc, il n'y a pas que le grand écran, mais aussi le petit écran. Et voilà, c'est ça, Bicult.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a un ancrage particulier à la Belgique ou à Bruxelles, ou alors c'est la musique et le cinéma de partout à travers le monde?
Disons qu'on on revendique nos racines belges, et donc on a à cœur de mettre en avant la culture underground musicale et cinématographique belge. Après, c'est vraiment assez ouvert. C'est pas que de la Belgique. On n'est pas à 100% sur quelque chose qui est belge, mais on essaye de mettre en tout cas ce genre de contenu plus en avant, quoi. Donc, on essaye de parler de groupes belges, de festivals belges, voilà.
D'accord. Et ça vient d'où, en fait, Bicult? C'est... Alors, toi, tu es la fondatrice, si on regarde le site, c'est marqué fondatrice et rédactrice en chef. Ouais. C'est toi, avec tes petits bras, qui est allé chercher des gens à droite, à gauche? Ou est-ce que vous étiez plus... Bah, comment ça s'est passé? D'abord, ça a quel âge? Comment une idée comme Bicult est arrivée?
Ben, disons que moi, j'ai fait des études de journalisme. Donc, j'ai un master en journalisme que j'ai obtenu à l'ULB. Et quand je suis sortie de mes études, j'ai cherché du boulot dans le journalisme. Et à cette époque-là, ben, c'était, je pense, quand même assez... Enfin, on était encore dans la crise. Donc, j'avais du mal à trouver un job, encore plus dans le journalisme. En plus, un job... voilà. Moi, je voulais quelque chose qui permette de payer mon loyer, etc. Donc, pas simplement des piges et enchaîner les piges pour essayer d'avoir un salaire correct. Donc, du coup, je me suis orientée vers la com, où là, j'ai trouvé un job. Mais du coup, j'étais assez frustrée de me dire, voilà, j'ai étudié le journalisme. Moi, c'est ça que j'aime. Enfin, en particulier écrire. J'ai vraiment adoré faire ça pendant mes études et pendant mes stages et voilà. En même temps, j'avais aussi une énorme passion pour la musique. Depuis, je crois que j'écoute de la musique comme tout le monde, je pense, depuis tout petit. Mais je veux dire, vraiment, j'ai commencé à acheter mes premiers albums quand j'avais 12 ans. Je mettais mes économies, mes petites dringuelles, comme on dit ici, de côté pour aller m'acheter des CD. J'écoutais les vinyles de mon père sur mon tourne-disque qui était censé être utilisé pour écouter mes 33 tours de Blanche-Neige, etc. Après, je l'ai réutilisé pour écouter les vieux vinyles de mon père. J'étais complètement à fond. J'allais déjà à pas mal de concerts et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer un... Avec Internet, voilà, c'est hyper open. On peut, si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas investir un petit peu d'argent et essayer de construire quelque chose. Donc, au départ, c'était... c'est quelque chose dont, enfin, l'idée, j'en ai parlé avec plein de potes à l'UNIF. Donc, au départ, on était énormément autour de la table. Je crois qu'on était une quinzaine, une vingtaine. Et on a fait des brainstorming pour trouver un nom. Au départ aussi, on voulait pas spécialement se limiter à la musique et au cinéma. On voulait aussi faire de la littérature. Enfin, vraiment un média culturel. Mmh. Et c'est là qu'on a trouvé Bicult. Enfin, c'est Nancy, de mes potes, qui a trouvé le nom pour le raccourci, on va dire, de Belgian Culture, parce qu'à la base, c'était aussi l'idée de mettre en avant la culture belge. Et donc, du coup, finalement, petit à petit, tout le monde a commencé à trouver des jobs. Voilà, et l'idée est un peu restée au placard, jusqu'à ce que, je pense, un an après, c'était en 2000, non, 2 ans après, je pense. Enfin, moi, l'idée était toujours restée dans ma tête, hein, mais voilà, je me suis dit, tant pis, je fais ça toute seule, je m'en fous. Donc, j'ai ouvert un... À l'époque, c'était un Blogspot ou un truc comme ça. J'étais souvent au DNA. J'ai souvent voir des concerts au DNA. À l'époque, c'était Greg, le patron, et je l'aidais à faire la com de la programmation musicale, etc. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai écrit moi-même, je prenais mon ticket pour mes concerts et j'écrivais moi-même des reviews. Et puis, petit à petit, je me suis fait des cartes de visite. Puis, j'ai donné au groupe quand j'allais les voir. J'allais au LR6, dans les petits trucs, quoi. Mm-hmm. Et du coup, les groupes ont commencé à me contacter en me disant, tiens, on va jouer là ou là, tu viendrais pas faire un truc, machin. Et puis, pareil avec d'autres gens, en fait. Il y a des photographes qui ont commencé à me contacter, des rédacteurs, voilà. Et puis, au final, en 2012, je pense, en septembre, un truc comme ça, il y avait une pote graphiste qui m'a aidé à faire le logo, un pote webmaster qui m'a aidé à faire le site. On a lancé le site. Et donc, ça fait depuis septembre 2012 que Bicult existe. Et voilà, et je suis super contente... De comment les choses ont évolué. Je suis super contente aussi d'avoir rencontré plein de gens, que ça m'ait ouvert plein de portes et de la collaboration avec l'équipe actuelle. C'est vraiment cool. On sent que, enfin voilà, il y a des gens. Bon, Stéphane, il est un peu plus nouveau, mais il est quand même là depuis un petit temps maintenant. Mais il y a Supreme qui est là quasi depuis le début. Enfin, ça devient des amis, en fait. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais
c'est non. C'est assez intéressant. C'est des aventures et ça montre que c'est possible à tous ceux qui quelque part sont dans leur coin, disent que j'aimerais bien faire telle ou telle chose. C'est tout à fait possible. C'est marrant parce que l'œil carnivore date à peu près de la même époque. Donc c'est marrant. On voit un peu le même genre d'envie quelque part, de frustration parce que le boulot ne correspond pas à ce que tu voulais faire, et quelque part derrière te dire alors je prends mes petits bras et puis je fais quelque chose à côté avec mes moyens et avec ma passion, quoi, en fait c'est ça. Après ouais. Je sais de source sûre, parce que j'ai l'œil carnivore derrière, que c'est pas si simple de faire vivre aussi longtemps un site internet, etc. Est-ce que ça a toujours été évident, ou alors est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas
Disons que c'est... Ouais. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de gérer mon agenda quotidien, donc mon boulot, parce que c'est pas mon boulot, Beagle, c'est une passion, c'est quelque chose que je fais pendant mon temps libre. Donc ça, c'est compliqué, ouais, parce que, bon, heureusement, je sais pas si c'est heureusement, mais en tout cas, j'ai pas d'enfant, donc du coup, j'ai déjà...
Ah ben, ça prend beaucoup de temps, oui.
Voilà, une charge en moins, mais ouais, donc du coup, c'est ça qui est dur, en fait, c'est que quand, au boulot, je suis chargée, parce que, enfin, voilà, je suis chargée de com, donc... on s'arrête jamais, en fait, quand on est chargé de com, il faut toujours être sur toutes les plateformes, sur la balle. Donc du coup, c'est compliqué, parce que par moments je suis débordée au bureau et en fait je dois quand même encore gérer Beagle. Donc j'essaye de faire comme je peux. Voilà, il y a des moments où je suis pas bien aussi, j'ai eu des petits problèmes de santé ou des trucs comme ça, mais j'essaie toujours. Et puis c'est cool aussi, c'est que je sais que je peux compter sur d'autres gens. Donc moi mon rôle maintenant, il est un peu plus de allez, je continue à écrire, je continue à faire des trucs, d'aller voir des festivals et tout, mais je pense que maintenant j'ai plus un rôle de coordination, de qui fait quoi, qui me rend son article pour quand. Après je m'occupe encore de tout ce qui est réseaux sociaux, je m'occupe de la relecture, de la mise en ligne, enfin de plein de choses, en fait,
ça prend un temps de fou. Par expérience, ça se voit pas, mais ça prend un temps monstrueux derrière. Finalement, on va dire écrire ou enregistrer une émission comme on fait aujourd'hui ou autre, c'est là on est dans la partie plaisir. Et en fait, c'est tout à côté qui prend énormément de temps et qui est beaucoup plus qui prend beaucoup de temps et qui fait que derrière, il faut beaucoup d'abnégation au final, hein, pour faire tenir quelque chose comme ça. C'est pas toujours évident.
Après, mais quand on voit le résultat, on est fier. Enfin, moi, je suis hyper fière et je suis hyper contente d'avoir peut-être dû sacrifier des heures ou des moments de mon existence à Beagle, parce que en fait, je trouve que c'est cool ce que c'est devenu, et que ça a aussi un rôle important, parce que maintenant dans les médias traditionnels il y a de moins en moins de place pour la culture, et donc je crois que les gens comme nous, les passionnés qui donnent un peu de leur temps pour mettre en avant de la musique, des œuvres cinématographiques, ça compense un peu parfois le rôle des médias qui n'est plus enfin, en tout cas, des médias généralistes, dans le soir, je crois que, je sais même pas si on peut dire, il y a des pages culture, mais très peu. Enfin, voilà, il y a de moins en moins de médias qui se consacrent à la culture, donc je pense que, c'est cool de se dire qu'on a quand même aussi une utilité, et que c'est pas juste quelque chose qu'on a fait parce qu'on aimait le faire, c'est que ça sert aussi à faire connaître des
groupes. Tout à fait. Je suppose que tu as eu, comme tu disais d'ailleurs, s'il y a des groupes qui te rappellent, c'est que eux-mêmes reconnaissent l'utilité et le côté chouette du travail que tu fais et le salut. Et c'est vrai que ça, c'est une des meilleures satisfactions au final.
Ouais, c'est clair. C'est la reconnaissance, en fait, dans tout boulot. Je trouve que c'est ça qui est le plus gratifiant. Je m'en fous de gagner de l'argent. D'ailleurs, j'en gagne pas. J'en perds. Parce
que oui.
Mais voilà, moi, je suis contente de pouvoir.
Et T'as déjà essayé, alors je sais pas la fréquentation ou quoi que ce soit, il y a les limites, c'est pas l'important, comme tu dis, au final, c'est le plaisir qu'on en ressort quand on le fait. Mais à ton avis, est-ce que, parce que c'est un des problèmes des médias généralistes et autres, c'est le fait que soi-disant ça ne rapporte rien, et donc c'est pour ça que les chaînes de télé en font quasiment plus, c'est pour ça que il y a quasiment plus de page culture dans des on va dire des médias généralistes, comme tu disais. Mais tu crois qu'il y a moyen d'en vivre ou pas, ou à un moment Bicult pourrait être ton boulot, ou c'est définitivement parti, vu que t'es là-dedans, normalement tu devrais savoir s'il y a une économie possible de quoi payer quelqu'un, bah, pas seulement toi, parce qu'il y a aussi tous les collaborateurs avec qui tu travailles, bah, tous les collaborateurs, j'aime pas ce mot-là, collaborateur, d'ailleurs je trouve ça horrible, mais tous les rédacteurs qui sont là et qui bossent avec toi, quoi.
Ben, je pense pas. Franchement, faudrait monter un gros truc avec de la pub, faudrait faire du démarchage, des trucs comme ça, et c'est quelque chose qui est hyper, qui prend beaucoup de temps. Donc moi, je pense pas que je pourrais cumuler ça et mon boulot. Déjà que cumuler Bicult pour l'instant et mon boulot, c'est chaud. Oui, comme tu dis, là, je pense que la presse. Enfin, les gens, je vois mal des gens payer en fait pour aller lire un article. Déjà, quand c'est de l'actu fraîche, on va dire sur le, j'en sais rien, sur le Vif, la Libre ou quoi. J'ai l'impression que les gens sont hyper frileux d'avoir un abonnement. Donc, enfin, j'imagine mal en fait payer, enfin quelqu'un payer pour voir une critique d'album. J'en sais rien, je sais pas. Puis en plus, je me dis que. Enfin, mais ça, c'est personnel aussi. Mais je me dis, à partir du moment où tu commences à mettre de la pub, OK, tu as des rentrées d'argent, tu peux peut-être un peu défrayer, du coup, les gens, voilà. Mais en même temps, tu es aussi un peu moins libre. Mm-hmm. Parce que, bon, après, ou alors il faut mettre carrément de la pub qui n'a rien à voir, mais ça, j'ai pas envie non plus. Et imaginons, je sais pas, j'ouvre la pub et puis j'ai une pub de l'AB pour un concert chez eux. Est-ce que moi, je peux encore aller dire que le concert était nul parce que c'est l'abbé qui me file de l'argent, tu vois,
enfin, ou simplement que l'abbé n'est pas une bonne salle où aller écouter les concerts. Tu veux dire, ça deviendrait, voilà, tu vois, ça deviendrait compliqué, oui.
Voilà, ce que j'aime bien aussi dans le fait que ce soit du bénévolat, on va dire, c'est qu'on est libre, on peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et...
Oui, après, c'est vrai que là, on le voit, il y a différentes initiatives du même style que la nôtre, mais peut-être plus gros, qui arrivent quelque part avec des financements du type Ulule. On pourrait penser, même pour Bicult, alors il faudrait qu'il y ait assez d'articles, mais sortir un trimestriel qui peut être vendu, ou des choses en genre là, tu vois, au final, quand tu as assez de... Il y a différentes formules que tu pourrais imaginer derrière, mais ça demanderait un boulot monstre et des gens payés pour ça, quoi.
c'est pas... c'est ça.
Parce que pour travailler, alors moi je travaille dans un média mais commercial pur. pour pas les nommer, c'est RTL, hein, bon, ben, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu des opportunités, hein, pour faire quelques trucs là-bas, mais c'est non merci. Bah c'est ça a pas du tout la même cause que la liberté qu'on peut avoir effectivement en étant en étant sur Radio Panique par exemple. Voilà. Ouais. Merci Radio Panique.
Oui, merci Radio Panique. Et je vois, parce que c'est exactement la même chose pour Bicult, quoi. Après, franchement, si un jour ça arrive, enfin pas la pub, hein, d'accord, mais le fait que Bicult ça devienne mon job full time, je crois que ce serait un rêve qui se réalise, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait, mais je peux pas, enfin sauf si je sais pas, je gagne au loto, même si je ne joue pas au loto, donc c'est vraiment pas de
chance. C'est compliqué de gagner sans jouer.
Et que c'est un gros capital qui me permet de commencer le truc, tu vois. Mais là non, enfin j'ai déjà du mal à trouver à m'acheter un appartement, alors
Non, mais je comprends tout à fait, et c'est le même genre de choses. Ouais. Alors, il y a combien de personnes derrière Bicult, en fait? Parce que je vois, quand on regarde sur le site, on voit qu'il y a des photographes, il y a des rédacteurs, il y a toi. Il y a combien de personnes pour l'instant, à peu près? Parce que je suppose que ça a bougé au fur et à mesure de son existence, mais...
C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que on met pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas envie de mettre de la pression aux gens. Tu vois, je me dis, s'ils ont envie de rejoindre l'équipe, c'est parce qu'ils ont envie de s'investir. J'ai pas envie de leur demander un rendement de X articles par semaine ou machin. Je me dis, ça doit être quelque chose qui doit aussi rester un plaisir pour eux. Parce que moi, il y a des fois, dans des périodes où j'ai eu vraiment beaucoup de boulot, où je me suis dit, bah, faut pas que ça me m'écœure non plus de faire ça, quoi, en fait. Et j'ai pas envie de les écœurer non plus de faire ça, donc je me dis que c'est assez libre, et c'est pour ça que c'est assez changeant, parce qu'en fait, parfois, il y a des gens qui restent, bah, comme Sandrine, qui est là depuis le début, et parfois, il y en a d'autres qui restent 2, 3, 4 mois, puis qui s'en vont, d'autres qui arrivent, donc c'est assez fluctuant. Avec le corona, ben, ça a été... en fait, on a lancé le site, si je me souviens bien, un peu avant, ou même pendant, je ne sais plus maintenant. Mais il n'y a pas longtemps, on a lancé le nouveau site parce qu'on avait... c'était un vieux site qui datait de 2012, du coup, et qui avait donc 8 ans, 8-9 ans, qui commençait à ramer. Il y avait plein de bugs. Donc, on s'est lancé dans la réalisation d'un nouveau site. Et à ce moment-là, je pense que sur le site, il y avait une vingtaine... si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de collaborateurs, photographes, rédacteurs, etc. Mais avec le corona qui est passé par là et qui a fait qu'il n'y a pas eu plus de concerts, donc déjà les photographes, ils sont un peu en mode stand-by. Il n'y a plus cette... tu vois, il y avait un rythme avant, il y avait une émulation, on pouvait demander des accrèdes, et puis on formait des binômes, et puis voilà. Ouais, c'est assez difficile et je pense que ça a découragé plein de gens, en fait. Donc, je dirais que pour l'instant, au niveau des photographes, je ne peux pas dire parce que voilà, on ne profite plus, entre guillemets, de leur service pour l'instant. Mais au niveau des rédacteurs, on est, on va dire, 6-7 noyaux durs. On va dire ça. Le noyau dur, c'est 6-7 personnes qui écrivent des articles, des reviews, qui font des interviews, voilà.
Alors là, je montre un peu, pour ceux qui nous suivent en vidéo, je montre un peu le site de Bicult, qui est très joli, moi je trouve, très simple, mais très efficace. J'aime bien d'ailleurs, à un moment, il y a une image, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais alors on ne la voit pas à l'écran, parce qu'elle est juste en dehors du visuel, mais de Going Deeper Underground, et donc c'est une image de quelqu'un avec... c'est sans doute une lampe, mais ça me fait penser au Resident, avec l'œil. Je ne sais pas si la référence est voulue ou pas, mais il y a un truc.
Non.
Voilà, mais c'est vrai que c'est un chouette site. Moi, c'est pour ça que j'avais envie de te rencontrer. Et puis aussi, Stéphane, c'est grâce à Stéphane que j'ai rencontré, que j'ai découvert ça. Mais c'est vrai que c'est un chouette site où il y a plein de choses à découvrir, plein de... et c'est assez éclectique. Même si on voit quand même qu'il y a une couleur principale quand même qui est effectivement dans les choix soit des musicaux soit au niveau des cinémas, séries, etc. D'ailleurs à ce niveau-là, est-ce que toi tu as des recommandations, comment ça se passe, un rédacteur te dit tiens j'ai envie d'écrire là-dessus et t'acceptes ou il y a un moment une validation de ta part ou pas, je sais pas, je me pose la question. Je dis ça c'est parce que je me souviens d'une fois comme ça pour l'œil carnivore où j'ai eu un rédacteur qui est parti complètement sur la K-pop, non c'est la J-pop je crois à l'époque, et il y a un moment où je me suis dit mais je comprenais pas ce qu'il écrivait. Il y a un moment où t'es un peu perdu quoi, où tu sais même plus que c'est quoi, comment, pourquoi, etc. Donc je ne sais pas si toi ou alors c'est juste voilà, les rédacteurs une fois qu'ils sont là tu leur laisses carte blanche et ils font ce qu'ils veulent.
C'est un peu des deux on va dire, en gros moi aussi hein, j'ai plein d'épisodes comme ça où je me retrouve avec des reviews de groupes qui ne collent pas du tout à la ligne parce que justement comme tu le dis la ligne est assez underground, donc j'ai ça, en fait, moi, j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que les autres le voient, mais j'ai l'impression d'être un peu la garante de ça et de me dire, ce n'est pas une question de valider ou pas valider. Et enfin, tu vois, je veux dire, je vais pas mépriser quelqu'un parce qu'il écoute Aya Nakamura ou j'en sais rien, ou qui danse sur David Guetta. Chacun ses goûts musicaux, mais c'est juste qu'on s'est donné une ligne. Enfin, en tout cas, moi, je me suis donné une ligne et j'ai pas envie d'en sortir. Donc, du coup, parce que je crois que c'est aussi en plus quelque chose qui est. Maintenant que ça fait quand même 9 ans qu'on existe. Je crois que c'est quelque chose auquel nos lecteurs sont habitués et je me verrais pas du jour au lendemain publier un truc sur Lady Gaga ou que sais-je. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un de mes rôles, c'est d'essayer de garder cette ligne, mais je suis ouverte à plein de choses. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un outil de partage commun, on va dire, sur lequel en fait les gens peuvent me dire moi j'ai vu tel film, j'ai trop envie d'en faire une critique, est-ce que c'est ok pour toi? Et du coup à ce moment-là, moi je regarde un peu de quoi il s'agit et je valide si tu veux, mais tu vois j'aime pas le terme valider parce que ça fait un peu comme si j'étais le chef suprême.
T'es la rédactrice en chef, c'est le boulot d'un rédacteur en chef, de valider, de dire ça marche, c'est dans la ligne, ça a pas d'intérêt. Moi je sais qu'une des choses, parce que généralement c'est pareil, je laisse assez libre les rédacteurs, mais une des choses par contre que je dis, c'est éviter la critique qui est négative. C'est-à-dire, si vous aimez pas quelque chose, sauf si c'est vraiment le truc que tout le monde attend, je sais pas moi, si on est dans l'univers geek, le dernier Star Wars, s'il y en a un qui a envie d'en parler, parce que voilà, on est là-dedans, bon, pourquoi pas, même si je trouve pas ça très intéressant, mais c'est pas grave. Et là, le descendre parce que ça correspond pas à l'attente qu'on peut avoir, ok, je peux comprendre. Je vais prendre un truc un peu plus arty, le Blade Runner de Villeneuve, par exemple, et quelqu'un n'a pas du tout aimé, et qu'il explique pourquoi, etc., puisqu'il y a une grosse attente derrière, pourquoi pas. Mais globalement, quand on n'a pas aimé, on n'en parle pas, et puis on parle de choses qu'on aime. Ça n'a pas trop d'intérêt de s'arrêter sur quelque chose qu'on n'a pas aimé, juste pour le descendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sais que ça, c'est au moins une des règles que je donne généralement à mes chroniqueurs, c'est parler de ce que vous aimez, ça sera 10 fois plus intéressant que de quelque chose que vous n'aimez pas, quoi.
Oui, je pense que, tu vois, de toute façon, naturellement, les gens vont vers ce qu'ils aiment. Donc, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah, je peux chroniquer ça parce que c'était vraiment naze. J'ai envie de le casser à mort. » Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent un peu de buzz, donc qui aiment bien casser, donc qui prennent un petit plaisir à faire ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est pas cool, en fait, parce que peu importe le type de musique qu'on fait... un artiste je parle pour la musique, mais pour le cinéma c'est pareil, peu importe le type de film ou de documentaire qu'on fait, je crois que tout le monde y met ses tripes et que ça prend du temps, et puis même si c'est hyper subjectif aussi parfois, moi je peux aimer un truc que Stéphane peut ne pas aimer, et je trouve ça un peu triste en fait, parce que même aussi critiquer de manière négative, juste pour être négative, je veux dire, c'est un peu comme si on était le guide suprême de nouveau et qu'il y avait que notre avis qui était le bon, quoi. Enfin, tu vois, et je trouve que, je suis dans la même optique que toi. Je dis pas aux gens il n'y a pas vraiment de mode d'ordre, mais en même temps, si un jour il y en a un qui me contacte ou une personne qui me contacte en me disant « Ouais, moi j'ai envie de casser à mort ce groupe-là parce qu'ils sont vraiment nazes », et voilà, je pense que je dirais non, il n'y a pas le...
Oui, sauf si c'est le dernier album du groupe mythique et que il y a des choses quand même à en dire et à critiquer. Après, c'est toujours le même problème. Si c'est cassé pour casser, ça n'a pas de sens, mais voilà quoi.
C'est ça, voilà. Après, il faut être objectif.
Et puis, ça dépend de l'angle. Moi, je me souviens d'un chroniqueur comme ça qui a voulu me parler de Jurassic Park World. Et en fait, il a écrit une espèce de petite pièce de théâtre qu'on a joué à deux, où il se sentait violé. Et moi, j'étais le flic et j'avais essayé de lui parler là-dessus, etc. Il disait, non, c'est trop horrible. parce qu'il avait vu Jurassic Park World et pour lui, ça avait été l'horreur, quoi. Voilà. Donc il y a moyen, pour à ce moment-là que ça soit drôle, quoi. Mais faut avoir un peu de talent. Ouais. Quoi.
Mais du coup on sort un peu de la ligne, tu vois.
Après c'est toujours.
Ouais.
C'est toujours. Ouais, et toi Stéphane, t'as rencontré comment Bicult?
Moi c'est passé par Roxane qui est une des rédactrices de Bicult, qui fait de la musique, qui est une de mes meilleures amies et une de mes joueuses dans mes projets GN. Et il y a un an environ, hein, je crois que j'ai commencé il y a un an.
C'est possible, même plus.
Dans une annonce, un an et demi. Je pourrais retrouver parce que c'était le jour où j'ai fait jouer Louvre Ballon à Liège.
C'était voilà, avant Corona ou après Corona, en fait, c'était facile à savoir.
Forcément, c'est avant Corona, avant. Et voilà, et puis moi je me suis proposé, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'écrire un petit peu sur le Cinoche et sur les séries, que j'en regarde énormément. Et du coup, voilà, et puis ça s'est bien, le courant est bien passé. Et puis, j'en ai écrit quand même quelques-unes. Et c'est cool, c'est vraiment cool à écrire. Voilà, donc tout va bien.
D'accord.
Je suis hyper contente qu'il soit avec nous. Et j'en profite pour faire des bisous à Roxane, qui est aussi une amie et qui c'est elle qui est vraiment qui m'a aidée à faire ce nouveau site. Donc je suis, enfin merci quoi. Vraiment sans elle, je pense que j'aurais eu du mal.
Ah, on t'a perdu.
Ouais.
On va voir si on peut la récupérer. En attendant, sur Bicult, il y a des playlists. Si vous, qui nous écoutez, vous avez envie de découvrir des nouveaux groupes ou découvrir des nouveaux morceaux, etc., n'hésitez pas, vous allez sur Spotify notamment. Donc là, on a complètement perdu Hélène, c'est pas grave, on va la récupérer. N'hésitez pas à aller sur Spotify. Et sur Spotify, vous avez... vous tapez Bicult, je crois, et au niveau des playlists, et vous allez trouver les playlists de Bicult, et à ce moment-là, il y a plein de choses. Et donc, je propose une petite pause musicale en attendant qu'on récupère Hélène. Et je vais vous mettre donc un morceau qui s'appelle... Alors...
Elle est de retour, elle est sur le général.
Ah, je vais la récupérer, hop, voilà, tac. Coucou Hélène.
Coucou, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous?
A priori, toi, parce que nous, il n'y a pas eu de soucis, on a continué tout droit, donc il n'y a pas de problème. Okay. Donc je parlais des playlists, c'est toi qui les fais les playlists?
Moi? Oui, c'est moi.
Ouais, d'accord, donc je disais que au niveau des playlists, il suffit d'aller sur Spotify, taper Bicult au niveau des playlists, et à ce moment-là, ça permet de découvrir plein de nouveaux morceaux, de nouveaux groupes, etc. Et donc là, je propose une petite pause musicale avec le morceau Crass de Courting, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, donc grâce à toi. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission, et notamment, on va parler du festival de documentaires de Bruxelles, Festival Millennium. Voilà.
And I've been thinking about going down south where the dust gets
in your nose
and you can put your money where your mouth is. Tesco to Waitrose, from the Wire to the Thames. Can't see my conscience in this muddy, muddy, muddy water. These buildings all look the same. The concrete wraps around the low budget airlines and the sounds of people walking quickly. But the sand can't get in your toes. Home of the lions and the hot, hot, hot weather. You're not a child anymore, ask where the money goes to. The land was ablaze, it started to rain and I was back again. Drowning myself in sweat. And I think me and Kanye might still have sex. That gun wasn't there the other day, I wonder what's inside it. Artificial lawn culture, flattering angles. I say the same thing 10 times to elicit a response. There's nothing I love more than the sound of my own voice. By the blood of a Catholic, B-M-O-T, I'm sorry for being so narcissistic. People tell me what to say, I'm just a man, Robbie's gone, and I'm more than just a Jason in your damn take that cover band. I wish I was like you, I've always wanted to go slumming, compose myself of all vertical shapes because I've heard it slimming. Sometimes I go up north but only to take pictures, and me and my friends only talk of making Richard richer. You're not a child anymore, ask where the money goes to. The land was ablaze, it started to rain and I was back again. Drowning myself in sweat. And I think me and Kanye might still have sex. I swear that billion wasn't there yesterday. What's inside it? Artificial lawn culture, flattering angles.
I say the same thing 10 times to elicit a response. There's nothing I love more than the sound of my own voice in the morning.
Et voilà. Donc c'était Courting avec le titre Crass de l'album J'ai perdu mon grand national, c'est ça ?
C'est possible, mais je ne connais pas l'album par cœur. Mais...
En tout cas, c'est une très chouette découverte. Je te remercie, Hélène.
Avec plaisir.
Et je propose de continuer directement avec le Millennium Festival. C'est le Festival international du film documentaire de Millennium de Bruxelles, qui a lieu à Bruxelles chaque année. Ça fait une dizaine d'années, je crois que il a été créé en 2009, d'après ce que j'ai noté rapidement. Et ça propose une sélection de documentaires réalisé par des cinéastes indépendants provenant du monde entier. Alors, je lis la version Wikipédia, je vous aide. Et ça a pour but de nourrir le regard et le débat critique, de mobiliser les citoyens et surtout, c'est des sujets engagés et sociaux. Donc, ce n'est pas juste des jolis documentaires qui font bien à la télé, on va dire. Mais il y a un message politique derrière. D'ailleurs, à la base, c'est l'ASBL Diogène qui est derrière la création du festival. Et c'est une boîte de production à la base qui travaillait avec des télévisions, avec des organisations humanitaires. Et ses fondateurs, c'est deux cinéastes bulgares. Alors, excusez-moi parce que je suis assez nul au niveau accent. Donc, je m'excuse déjà d'office à la mauvaise prononciation. Sauf s'il y a quelqu'un qui est bulgare dans le coin et qui sait bien les prononcer. Je ne sais pas si toi, Hélène ou Stéphane. Alors, je m'excuse. Mais c'est Loubomir Georgiev. On va dire ça comme ça. Et Zlatina Rousseva, et qui sont actuellement encore les directeurs artistiques du festival. Et donc, ça s'appelle Millennium, puisque ça fait référence aux objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui devenu objectif de développement durable. Donc voilà, ça s'inscrit quand même dans un mouvement militant, ce festival, quoi. Et donc toi, pour Bicult, Stéphane, tu couvres ce festival, donc tu as déjà vu 6 documentaires, c'est ça ?
Ouais, je suis à 6 films, donc je préviens Hélène, j'ai un peu débordé sur la liste qu'on avait prévue.
C'est pas grave, il y en avait déjà beaucoup, mais...
Non, j'ai débordé beaucoup, je suis pas sorti. Hélène, je couvre la partie qui parle des droits humains du festival, plus 2, 3, 4, 5 autres films... sur d'autres sujets comme ça qui m'intéressent beaucoup. Voilà.
Ouais, et après, pour ajouter un petit truc, que Stéphane est en binôme avec Christophe, un autre rédacteur cinéma, qui couvre aussi une partie du festival et plus la partie environnementale, on va dire.
D'accord. Et tu disais, hors antenne, en préparant l'émission, que Bicult et le festival Millennium, c'est une longue histoire.
Oui, on a déjà eu plusieurs. On a déjà collaboré plusieurs fois ensemble. En fait, ils reviennent souvent vers nous pour voir si on est intéressé. L'année passée, en fait, Stéphane avait participé à la conférence de presse du festival et il devait le couvrir. Et puis, il y a eu le Covid a débarqué, le confinement, etc. Donc, du coup, on s'était dit qu'on verrait comment la chose évolue. Puis quand ils ont eu l'intention, pour plan de faire une édition en ligne, ils ont contacté en demandant si on était toujours intéressé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais cette fois-ci, c'est quand même, il y a quand même énormément de documentaires programmés. Je trouvais ça sympa de dire que voilà, si, enfin, en plus ça a intéressé Christophe qui forme un binôme, mais que ce soit pas uniquement Stéphane qui couvre l'ensemble du festival. Et puis en plus ça permet aussi de pas trop charger ses fans, le pauvre, même si je crois qu'il se charge tout seul, mais voilà. Et aussi de donner deux angles différents, en fait, parce que chaque personne a sa subjectivité, et donc voilà.
Tout à fait. Pour le carnivore, on vient de couvrir le Beef, et Sam, qui est de Big Cell Geek, je sais pas si tu connais, et Hélène, c'est un site qui couvre l'actualité geek de Bruxelles, on va dire de manière générale. Et donc on couvrait tous les deux, et plusieurs fois on n'était pas d'accord sur le film, lui avait bien aimé ou moi, et vice versa, et c'est ça qui est intéressant aussi, ça crée le rapport, et voilà, et effectivement deux angles sont intéressants de ce point de vue là, ça c'est clair. Et puis c'est impossible, de toute façon, tout seul, de voir tous les films. Au bout d'un moment, tu sais plus ce que tu vois. Il y a un moment, il y a un trop plein. J'imagine.
Les documentaires, ils y vont, hein. Il faut y aller quand même. Hein. Il y a des PLS possibles dans tous les sens.
Ouais, j'imagine.
C'est dur. Hein. Et tu en faire plus de deux dans une journée, c'est compliqué.
Ouais.
Voilà, c'est compliqué.
J'imagine, parce que effectivement, ouais, non, ça doit pas être simple. Alors, justement, toi, tu nous as sélectionné. Alors, je crois que tu m'avais sélectionné trois films. Il y avait Dear Future Children. On va tout péter. Et puis Play God, c'est ça?
Tout à fait. Play God, c'est deviens Dieu ou fais-toi Dieu. Fais-toi Dieu.
Fais-toi Dieu en français, sans doute, et voilà. Fais-toi Dieu. Par lequel tu veux commencer, alors?
Je peux commencer par celui que j'avais vraiment envie de voir dès que j'avais vu la description, c'est Dear Future Children, parce qu'il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. C'est peut-être mettre la bande-annonce.
Alors, ce que je vais faire, parce que là, on est. Mais je vais passer les images et peut-être le son en fond. Puisque c'est quand même un trailer qui dure à peu près 2 minutes, à moins que vous vouliez l'envoyer, je sais pas. En fait, je les ai pas regardés, donc je ne sais pas ce que ça donne. Par contre, je peux passer complètement les images derrière toi pendant que tu parles. Voilà, c'est...
Donc c'est un documentaire qui suit le parcours de trois jeunes femmes qui sont des activistes. Donc il y en a une qui est activiste environnementale, une qui est plutôt socio-économique, et la dernière qui est une activiste hongkongaise. Et ce documentaire est vraiment intéressant parce qu'il va mettre leur activisme en parallèle et montrer en quoi finalement il y a des liens qui se font dans l'activisme, dans la manière de réagir. Et notamment tout le suivi de l'hongkongaise est absolument extraordinaire, ne serait-ce que parce que c'est sans doute celle qui a le plus à faire avec la violence, même si la chilienne ça chauffe un peu quand même. Et c'est un documentaire qui est super intéressant pour découvrir ce que c'est que l'activisme des jeunes aujourd'hui, qui évoque un petit peu Youth for Climate avec la jeune hongkongaise qui lutte vraiment pour le climat, et qui souligne comme ça ces liens, ces évidences dans les actes, dans l'activisme, comme par exemple la relation avec ta famille, avec tes amis, le fait que tu mettes ta vie en danger. Surtout qu'elles sont toutes les trois en front line, c'est-à-dire elles sont à la première ligne d'affrontement avec la police, par exemple.
Voilà, oui, c'est ce qu'on voit dans les images, c'est qu'elles sont, elles sont là, quoi. Oui, c'est pas de l'engagement de salon, quoi.
Non, pas du tout. Et typiquement, la hongkongaise risque sa vie, quoi. Elle le dit elle-même. Hein, et donc, je vous encourage à le voir parce que c'est vraiment, c'est pas 89 mythes mis par terre, c'est vraiment intéressant. C'est bien fait. Et puis, il y a cette espèce de parallèle comme ça qui est construit. Vraiment, un très, très bon documentaire.
Oui, parce que là, on voit, donc c'est effectivement trois continents différents, donc à Hong Kong, au Chili et...
Uganda. Et l'Uganda en Afrique.
Voilà.
L'Uganda, vraiment des conséquences du réchauffement climatique. Mm-hmm. Ça permet aussi de voir qu'il y a actuellement des conséquences du réchauffement climatique, parce que nous, en Europe, ça va, j'ai envie de dire. Mais là-bas, ça ne va pas du tout, en fait. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes d'incendie, ils ont des problèmes de température qui montent, qui descendent d'un seul coup. Ça détruit des fermes, ça détruit l'exploitation, ça crée de la famine. Bref, c'est une catastrophe totale en Afrique noire. La chilienne, forcément, elle affronte un gouvernement d'extrême droite très, très dur qui travaille principalement pour les milliardaires et donc qui littéralement tire ses pauvres. Il y a des chiffres qui sont donnés dans le documentaire, c'est 44 000 personnes qui ont perdu un œil.
44 000, ça fait beaucoup, là, quand même.
11 000, peut-être que je me trompe. C'est 11 000. Ça, c'est beaucoup, hein.
Oui, oui, oui. De toute façon, comme en France, je ne sais plus à combien on est, c'est déjà trop, donc... c'est plus un accident, tu vois, je veux dire, tu peux imaginer une fois comme ça, il y a un accident, mais...
Évidemment, Hong Kong avec la pression de la Chine et le fait que tous ces jeunes manifestants sont devenus criminels. Voilà. Elle, par exemple, à la fin, on découvre qu'elle a dû quitter le pays et qu'elle vit quelque part dans le monde. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant.
D'accord. D'accord. Et donc, ouais, celui-là, tu le conseilles fortement. Et celui-là, il t'a pas mis en PLS, il t'a plutôt donné du courage ou...
Il donne un peu de colère vis-à-vis de la situation. Il donne envie de s'engager clairement. Et puis, quand même un petit peu, hein, il touche, hein, il atteint. Il y a tout un moment sur des, notamment sur des activistes chiliens qui sont morts sous les coups de la police, un petit peu violent. Il y a une séquence très très dure. Voilà, il y a quand même une séquence difficile. Hein, il ne faut pas voir ça avec beaucoup de prudence, j'ai envie de dire.
D'accord. Ouais, non, mais c'est pareil, là, c'est en Colombie où il y a des mouvements assez forts qu'il faut relayer parce que les gens se font tirer dessus, tout simplement, et qu'il y a des gens se vont abattre pour leur position politique. Donc là, on est pareil, hein, à l'heure actuelle. Voilà, c'est... Pour l'instant, ici, on se fait juste éborgner ou perdre une main. Je dis ça en rigolant, mais voilà, quoi. Ouais. Ou des mois de prison, parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de gilets jaunes qui ont fait des mois de prison pour rien, pour des choses qu'on ne condamnait pas avant. Hein. Voilà.
Il y a une poussée d'extrême droite un peu partout à travers le monde, qui naît de la peur, hein, et de la peur de ce qui va se passer au futur. Et clairement, ça provoque ça, c'est une évidence.
Et le deuxième documentaire, alors, c'est...
A tout pété. Ben lui aussi, j'avais envie de le voir, mais ça parce que je suis un sale gauchias.
Ouais. Et ben je.
Qui va suivre une grève en France. C'est une grève chez un équipementier automobile qui travaille pour des grands groupes français. En l'occurrence, il travaille pour Renault et pour les deux grands en fait, Renault et je cherche le deuxième.
Peugeot.
Citroën.
Bah ouais. Citroën. Peugeot, Citroën. Alors maintenant, je sais plus. Ça a un nouveau nom. Ils ont un nouveau nom. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. J'ai oublié.
Pareil pour les deux. Et il s'avère que, en fait, ils font des pièces pour les voitures Renault et pour les voitures Citroën, Peugeot, et ces pièces sont intérieures, ce n'est pas des pièces visibles. Et en fait, ils vont découvrir d'abord que ces pièces sont de plus en plus produites à l'étranger, et puis ils vont apprendre qu'ils vont devoir fermer. Et en gros, s'ils ne sont pas rachetés, ils vont devoir fermer. Alors, ils rentrent en grève, et ils rentrent en grève de façon très, très sérieuse. Hein. C'est-à-dire que les premiers plans du film, je pense que c'est dans les 5 premières minutes du film, tu vois les bonbonnes de gaz sur les grands conteneurs qui contiennent du gaz, prêts à exploser. C'est branché, c'est prêt à péter. D'où le titre. Et donc tu vas suivre, ils sont 260 à faire grève, avec occupation des locaux, etc. Et tu vas découvrir un petit peu comment ça se passe, en fait, un mouvement de grève aussi déterminé que ça. Sachant que ça se passe dans la Creuse, donc on est vraiment au fin fond de la France, là où les caméras sont très peu nombreuses, et tu découvres tout ce qui se passe autour de ça. C'est vraiment intéressant justement pour découvrir le travail des syndicats en France, et puis découvrir ce que ça veut dire de faire grève quand on a 50 ans. Parce que c'est 260 ouvriers qui, en moyenne, sont entre 40 et 50 ans, et donc pour qui faire ce travail, c'est devenir chômeur jusqu'à la retraite. Pour ça. Donc les enjeux sont considérables, c'est super intéressant, et c'est vraiment à suivre. Bah, c'est vraiment un bon documentaire.
Et le troisième que tu nous as ramené, c'est...
Alors le troisième est très particulier, c'est Fais-toi Dieu. Alors, pourquoi c'est particulier? Parce que c'est un documentaire qui aborde la naissance d'une nouvelle sainte au Mexique. Alors déjà, premier élément, première approche, c'est qu'il y a énormément de saints au Mexique. La superstition est très, très présente, notamment alimentée par l'Église catholique. Il y a énormément de croyants dans différents saints et saintes, avec des processions, etc. Par exemple, ils adorent un saint possible, c'est la Sainte Mort. Donc, c'est une statuette de la mort, comme ça. Et l'une des façons de lui rendre hommage, c'est de faire brûler des cigarettes. Donc, on lui met des cigarettes qui brûlent dans ses doigts, etc. Donc, c'est très, très curieux comme rite. Et parmi tous les saints, depuis quelques mois, puisqu'il y a la naissance de Sainte Anima. Et c'est très, très étrange. Alors, pourquoi c'est très étrange ? Parce que c'est une sainte dont le discours est « Nous, c'est les hommes qui créent les religions, c'est les hommes qui créent les dieux. » Donc, même la religion catholique est fausse. En fait, c'est vous, les dieux. Et donc, la manière de rendre hommage à Sainte Anima, c'est en lui écrivant des poèmes, en lui jouant de la musique ou en se montrant créatif.
Ah ouais ! Effectivement, là, on voit des images, c'est assez surprenant, oui.
Ah, c'est très, très bizarre. Et donc, il y a des témoignages de ces deux-là qui sont mis en exergue. Notamment une personne qui explique que c'est la première fois qu'elle voit un culte, un saint ou une sainte qui ne demande pas d'argent et qui met en avant le fait qu'elle demande des... On doit lui rendre hommage en lui donnant un poème à ses pieds, simplement. Voilà, et donc c'est très très curieux, ils organisent des happenings, ils font un happening qui s'appelle un happening existentiel, avec des panneaux, etc. C'est là où il y a ce type avec cette espèce de masque en forme de nuage qu'on voit dans la bande-annonce, dans cet happening. Et la symbolique, c'est une espèce de colonne de papier plié que la sainte tient entre les mains et qui semble sortir de son cœur. Voilà, et donc c'est très très curieux, donc je vous incite à... Il faut rentrer dedans dans ce documentaire parce qu'il est il y a aucune voix off du tout. On est vraiment plongé dedans avec juste des témoignages de gens sans qu'on entende jamais aucune voix autre que celle des témoignages. Il y a un petit moment choquant mais qui n'est pas du tout violent pour le coup, qui est la confrontation d'un de ses croyants à Sainte Anima face à un prêtre catholique qui lui explique que il ne faut pas réinventer la religion et que c'est Jésus qui a tout fait et que c'est lui qu'il faut adorer, sinon c'est Satan. Donc c'est très, très étrange comme discours, hein, c'est très, très répressif et régressif. Mais c'est un documentaire qui est vraiment intéressant, justement sur cette espèce de poussée d'envie, de culture et de création. Et on voit que ça attire la curiosité et c'est chouette. C'est chouette.
Oui, parce que moi, ce que j'arrive pas à comprendre, alors je sais pas si le documentaire l'explique, mais alors elle est vivante, cette sainte, encore ou pas?
C'est vraiment une statuette, en fait. Et d'ailleurs, ils le disent, Sainte Anima a aussi été créée par les hommes. Donc, il y a vraiment une sorte de négation totale de la religion, malgré le fait que ce soit une sainte. Et ils lui rendent hommage, on voit des gens qui vendent des objets pour Sainte Anima. Ou qui les donne d'ailleurs plutôt. Et du coup, non, il n'y a pas de sainte en fait. C'est juste une statuette. Il demande qu'on lui rende hommage en créant des choses. Voilà.
Mais c'est génial. J'ai envie de dire. On dirait une espèce de happening qu'auraient pu faire certains artistes ou autres, etc. Et qui aurait fini par prendre forme en fait.
Bon, ça rappelle un peu les surréalistes. Il y a aussi un côté excessivement poétique dans certaines symphoniques. Il y a un côté aussi, waouh, c'est impressionnant. Il y a notamment un moment donné où il y a une sorte de pyramide de verre qui est fabriquée avec dedans tous les saints et toutes les saintes. Donc on a la sainte mort, etc. Et au centre, Sainte Anima. Et c'est un objet extraordinaire, extraordinairement beau.
Et on sait qui l'a créé ?
Non. C'est des artisans locaux qui font ça. Et c'est très. On peut pas. Alors, par contre, il n'y a aucune explication. Le documentaire livre juste des témoignages et filme juste des choses. Donc, on n'a pas de travail d'enquête qui est fait. C'est vraiment juste de la caméra est posée, il filme le culte autour de Sainte Anima et le culte autour de l'artiste et du fait de créer de l'art. Voilà.
Et tu es sûr que ce n'est pas un canular aussi, parce que ça aurait pu être un... T'en sais rien, en fait, tu l'as pris comme ça et voilà, tu n'as pas de...
Voilà. Le documentaire ne dit pas ça. Par contre, c'était présent dans beaucoup d'endroits et ça commence à être présent dans certaines églises, etc. Donc, ça commence à prendre de la place. Et le fait que, on le découvre dans le documentaire, ça participe aux processions avec les autres saints et les autres saintes, c'est que ça prend de la place, en fait. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. En tout cas, c'est super intéressant de voir comment un message aussi positif que allez-y, écrivez de la poésie, écrivez des chansons, produisez-vous dans la rue.
Soyez Dieu, quoi. Soyez la création, soyez Dieu, c'est ça derrière.
Ouais. C'est un discours très, très positif. Et ça surprend. Voilà.
Et ça surprend d'autant plus qu'on est dans des sociétés très.
Là, pour le coup, la société mexicaine, oui, c'est très. C'est à la fois, c'est assez violente. Et en même temps, une société qui est très marquée par la superstition. Je veux dire, là, pour le coup, l'Église catholique est très forte. Et en plus, elle est très forte et elle est dans une vision très archaïque. Hein. Vu le discours que tient le prêtre à un moment donné, qui est un discours assez, oui, c'est complètement archaïque. Ici, notamment, c'est Jésus qui a créé la religion il y a 2000 ans. Donc, il y a une négation de toutes les autres religions. Hein. C'est dit texto par le prêtre. Donc, oui, c'est très, très bizarre. Oui, c'est pas très agréable.
Oui, bon, après, ça reste la religion. Donc, c'est d'une façon bizarre par essence. Mais... c'est pas d'offense, mais bon. Moi, j'adorais... Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain de science-fiction et de fantastique Jacques Vance.
Parfait.
Ouais. Moi, pas.
Alors, c'est un écrivain qui a pas mal écrit entre les... Alors, j'ai peur de me gourer au niveau des dates, mais on va dire que 60, 70, peut-être 80 un peu. Une de ses séries les plus connues, c'est le cycle de Chai, où c'est un astronaute qui s'écrase sur une planète et qui essaye de s'en sortir et qui rencontre différentes races et différents personnages, etc. Et ça dure ça dans nos bouquins. Mais ce qui est génial, c'est que c'était à la base un marin de marine marchande et qui avait rencontré en fait plein de manières de voir le monde en fait grâce à ses périples et ce qui est génial dans sa science-fiction, c'est que c'est une science-fiction qui est pas du tout technique, c'est-à-dire que les vaisseaux spatiaux, c'est vraiment comme des voitures, des limousines ou des yachts ou des trucs dans ce genre-là. Il n'y a pas d'explication comment ils marchent ou quoi que ce soit, et ce qui l'intéresse au final, c'est les structures de société, comment elles marchent les unes par rapport aux autres, et notamment les religions. Et à chaque fois, il te trouve des religions super intéressante parce que qui montre que finalement nos religions auraient pu être tout autres avec un tout autre fonctionnement et que ça aurait tout à fait fonctionné, c'était pas un problème. Nous on s'est arrêté sur ces religions là, mais ça aurait pu être complètement autre chose et on aurait pu imaginer le divin de manière différente, etc. Mais c'est simplement des croyances, c'est même pas que les dieux existent dans ces mondes ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment comment les gens abordent la religion, etc. Donc moi j'aime beaucoup Jacques Vance pour ça, puisqu'il imagine des manières, des structures de société et des religions qui auraient pu être dans notre monde, voilà, ça aurait pas été plus surprenant que ça, quoi. Voilà.
C'est de l'anthropologie sci-fi anthropo.
C'est de toute façon la bonne science-fiction, la bonne anticipation, c'est celle qui nous renvoie à nous-mêmes et à notre monde, hein, c'est ça, hein, au final. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu la limite d'ailleurs généralement de l'heroic fantasy qui est généralement est plutôt tournée vers elle-même, alors que la science-fiction est plus la critique, mais c'est pas vraiment le cas, mais voilà vers le monde. Là c'est des grandes généralités et il y a plein de contre-exemples évidemment. je vous remercie tous les deux. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter au niveau du Millennium Festival.
Moi, ce que je peux dire, c'est que tout est visible sur sooner.be, qui est donc un site de streaming. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez acheter des films, film par film, ou carrément prendre un pack pour tout voir à votre convenance.
C'est pas très cher, d'après mes souvenirs d'ailleurs.
Pas cher, et ce que j'ai vu, évidemment. Et puis autre truc, ils sortent en fait les films par trois groupes, donc ça permet de pas directement se gaver. Donc c'est super intéressant. Vous voyez, et regarder les films documentaires, ça peut me faire du bien à notre époque, surtout que tout ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est intéressant d'être curieux sur le monde et dans les
films. Merci Hélène d'être venue nous présenter Big Cult. Merci Stéphane d'être venu pour nous présenter le festival Millennium, que moi en fait j'étais complètement passé à côté les années précédentes, donc je te remercie. Merci à Radio Panique qui nous accueille. Merci à badgeek.fr aussi qui accueille nos podcasts. On se retrouve d'ici un mois normalement, le troisième samedi du mois prochain, en juin, ça sera le dernier de la saison. Puis à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt.
Salut.
Ciao.